Jacques Boulanger, Le Chevalier à la Charrette. Chapitre 1. Défi de Méléagant. Comme de coutume, le jour de l'Ascension, le roi Artus tint sa cour à Camalot, la plus aventureuse de ces villes et l'une des plus agréables. Mais ce fut une cour triste, et non pas merveilleuse comme celle de Naguère. Certes, le temps était beau, et partout verdoyaient les prés et les bois. Les oisillons menaient leur joie sous la ramée, mais nulle pucelle ne songeait à cueillir les roses. Galeot était mort, Lancelot parti depuis un an. Ah, maintes larmes furent pleurées devant que cette cour se sépara. Comme le roi sortait de la messe, Lionel, au cœur sans frein, arriva. Vainement, durant un an et un jour, il avait parcouru tous les pays en quête de Lancelot. Il n'en avait appris aucune nouvelle. Et la reine eut si grand deuil en l'entendant qu'elle put à peine le cacher. Ce même jour, on apprit encore que la dame de Malleot était morte d'amour pour Galeot, sire des îles lointaines. Et le roi dit que Lancelot devait être mort de deuil, comme elle, à cause de la perte qu'il avait faite de son ami. « Certes, » fit messire Gauvin, « il eut raison, car avec Galeot, toute prudomie et vaillance ont disparu du monde. » De ce mot, la reine fut très courroucée, car elle ne croyait pas que Lancelot fût mort. Elle pensait qu'il était malade ou prisonnier. Son cœur le lui disait bien. « Comment, Gauvin ? » dit-elle. « Il ne reste sur terre nul homme qui vaille. Il y a au moins le roi, votre oncle. » Tout le monde se tut, et le roi se mit à songer tristement. Comme il rêvait ainsi, entra un chevalier tout armé et ceint de son épée, mais sans aume. Grand et fort de ses membres, les jambes longues et droites, bien fourni des reins, les flancs étroits, la poitrine épaisse et haute, les bras gros et longs, les os durs, les poings carrés, les épaules larges, la tête grosse et le visage semé de taches de sang. Il traversa la salle à grands pas, tenant par contenance un bâton à la main. Et, arrivé devant le roi, il dit fièrement et si haut qu'il fut entendu de tous. « Roi Artus, je te fais savoir, à toi et à tous ceux qui sont ici, que je suis Méléagant, fils du roi Baudemagus de Gore, et je viens me défendre contre Lancelot du Lac, car j'ai ouï dire qu'il se plaint que ce soit par trahison que je l'ai jadis blessé. Et s'il le prétend, qu'il s'avance, car je suis prêt à soutenir que je l'ai navré en droite joute et comme bon chevalier. « Sire, fit le roi, vous êtes le fils de l'un des plus prud'hommes du monde, et l'on doit vous pardonner votre méprise pour l'amour de lui. Ignorez-vous que Lancelot n'est pas séant, et il n'y est plus depuis longtemps. S'il s'y trouvait, il saurait bien vous répondre. » Lionel, le cousin germain de Lancelot, se leva. Il allait prier le roi de prendre son gage et relever le défi de Méléagant, lorsque la reine le tira vivement en arrière. « Soyez sûr, lui dit-elle, que quand Dieu aura ramené votre cousin, il ne se tiendra pour venger que s'il ne l'est par lui-même. » Voyant Lionel se rasseoir, Méléagant sourit insolemment. Et après avoir attendu un moment, il dit encore « Sire, j'étais venu chercher chevalerie en votre cour, mais je n'en trouve point. Toutefois, je ferai tant que j'aurai bataille, s'il est ici, autant de preux qu'on dit. Il y a au royaume de mon père beaucoup de captifs de ce pays de l'ogre, que jamais vous n'avez pu délivrer. Si vous osez confier la reine à l'un de vos chevaliers qui l'amène dans la forêt, « je le combattrai, et s'il défend la reine contre moi, les Bretons seront quittes et libres. Mais si je la conquiers, je l'emmènerai comme chose qui m'appartienne. » « Bel ami, fit le roi, que vous les ayez en prison, cela me chagrine, mais ils ne seront jamais délivrés par la reine, que je sache. » Alors Méléagant sortit de la salle, et, remonté à cheval, il s'en fut vers la forêt, au petit pas et en regardant souvent en arrière pour voir si nul ne le suivait. Mais il n'y avait personne qui ne jugeât grande folie d'exposer la reine comme il l'avait proposé. Toutefois, que le sénéchal était allé s'armer dans sa maison. Il revint devant le roi, le haume en tête et l'écu au col. « Sire, dit-il, je vous ai servi de bon cœur, et plus par amour de vous que pour terres et trésors, mais je vois bien que vous ne m'aimez plus. Aussi, je quitte votre compagnie et votre maison. » Le roi aimait le sénéchal de grand cœur. « À quoi, fit-il, vous êtes-vous aperçu que je vous aime moins? Si l'on vous a fait aucune injure, dites-le-moi, et je la réparerai si hautement que vous en tirerez honneur. » « Sénéchal, dit la reine à son tour, je vous prie de demeurer pour l'amour de moi, et si les choses que vous désirez, je vous la ferai avoir, quelles qu'elles soient. Mais sire le roi sera garant de ma promesse. » À quoi le roi s'engagea. « Sire, reprit le sénéchal, je vous dirai donc quel est le don que vous venez de me faire. C'est que je conduirai madame la reine au chevalier qui sort d'ici, pour le combattre et délivrer nos gens, car nous serions tous honnis s'il partait de votre hôtel sans bataille. » À ces mots, le roi fut si irrité et chagrin qu'il parut au point d'en perdre le sens. Mais la reine fut plus dolente encore. Son cœur lui disait que Lancelot n'était pas mort, et songeant que ce n'était pas lui qui allait la défendre, mais que, et qu'elle était en grand péril, il s'en fallut de peu qu'elle ne s'oxyt. Pourtant, quand son palefroid fut prêt, le roi l'envoya chercher dans sa chambre où elle pleurait de tout son cœur. En passant, elle regarda Monseigneur Gauvain. « Beau neveu, dit-elle, vous aviez raison. Depuis la mort de Galeo, toute prouesse a disparu. Montez, dame, et n'ayez crainte, fit que je vous ramènerai sauve, s'il plaît à Dieu. » Or, tandis que tous deux s'éloignaient, messire Gauvain disait au roi, « Comment, sire, vous souffrez que madame la reine soit conduite dans la forêt par que le sénéchal, à qui sans doute elle sera ravie? Et donc ce chevalier l'emmènera paisiblement? Oui, dit le roi, car je serais honni si aucun homme de ma maison intervenait. Certes, un roi ne doit se dédire de sa parole. » Sire, reprit messire Gauvain, vous avez fait une grande enfance. Et il résolut qu'il irait reconquérir la reine et défier Méléagant jusque dans le royaume de Gore. Il se fit armer et partit sur le champ, suivi de deux écuyers qui menaient en main deux beaux destriers. Chapitre 2. La reine ravie. Dans la forêt, Méléagant attendait avec plus de 100 chevaliers. En voyant arriver qu'eux, il les fit cacher et vint au-devant du sénéchal. « Chevalier, dit-il, qui êtes-vous? Et cette dame, qui est-elle? » « C'est la reine. » « Dame, dévoilez-vous afin que je vous voie. » La reine leva son voile, et il connut bien que c'était elle. Alors il proposa à que d'aller dans une lande voisine, la plus belle du monde, pour jouter, car la forêt était trop épaisse pour que deux chevaliers y pussent combattre loyalement. Et là, il saisit le palefroid de la reine par le frein. « Dame, vous êtes prise. »« Vous ne l'aurez pas si aisément, » répliqua que. Et tous deux, ayant pris du champ, fondirent l'un sur l'autre, la lance sous l'aisselle, à telle allure qu'ils bruyaient comme Alérion. Or, que avait fait folie, car il n'avait pas vérifié ses sangles, qui étaient usées auprès des boucles. Elles rompirent au premier choc, et de même le poitrinal du cheval, de manière qu'il vola à terre, la selle entre les cuisses, et se meurtrit fort en tombant. Alors Méléagant le foula au pied de son destrier. Ainsi conquit-il la reine Guenièvre, ce glorieux, cet abacâtre, et il l'emmena, en même temps que le sénéchal tout pâmé, que deux sergents avaient couché dans une litière. mais le comte laisse à présent de parler de lui et revient à Monseigneur Gauvin. Chapitre 3. Le nain charretier. Comme il approchait de la forêt, il en vit sortir le cheval de queue, galopant au hasard, reine rompue, sangle brisée. Et peu après, il aperçut un chevalier, le homme en tête, qui poussait son destrier fourbu et qui, l'ayant salué, lui cria du plus loin qu'il put « Sire, baillez-moi après ou à don l'un de ces chevaux que mènent vos écuyers. Je vous promets en échange tel service que vous voudrez. » « Beau sire, choisissez celui qui vous plaira. » Sans répondre, le chevalier sauta sur le destrier le plus proche, piqua des deux et disparut dans la forêt. À l'allure dont il allait, il ne tarda guère à joindre Méléagant et ses gens. Et sachez que ceux-ci étaient plus de 100. Sans hésiter, le chevalier broche des éperons et fond sur eux comme un émerillon. Méléagant s'adresse à sa rencontre, et tous deux s'entrechoquent si rudement que leurs yeux étincellent. Du coup, Méléagant est si ébranlé qu'il lui faut embrasser le cou de son destrier pour ne pas choir. Ce que voyant, ses chevaliers se jettent sur l'étranger. Mais celui-ci commence de frapper à Dex et à Sénestre si durement que tout ce qu'il atteint, le menton leur heurte la poitrine, et si vivement que 8 hommes n'auraient pu faire plus, tranchant écu et aume et aubert. Alors Méléagant lui court sus en criant « Vous êtes mort !» Pourtant, il se contente de frapper déloyalement le cheval de l'étranger qui s'affaisse. Puis il s'éloigne avec sa troupe, comme gens qui n'ont pas de temps à perdre, emmenant la reine et que le sénéchal. L'étranger les poursuivit en courant tant qu'il put et jusqu'à ce qu'enfin il se trouvât si las qu'il lui fallut prendre le pas. Après avoir longtemps marché, il aperçut une charrette qui cheminait devant lui. Il la joignit en toute hâte et vit qu'elle était conduite par un nain court, gros et renfrogné, assis sur le limon et qui tenait, comme font les charretiers, une longue verge à la main. « Nain, lui demanda-t-il après l'avoir salué, ne saurais-tu me donner nouvelle d'une dame qui va par ici ?» « Vous parlez de la reine? Désirez-vous beaucoup d'avoir de ses nouvelles ?»« Oui, » fit l'étranger. « Je te la montrerai demain, si tu fais ce que je t'enseignerai. Monte sur cette charrette, et je te mènerai où tu pourras la voir. » Or, sachez qu'en ce temps-là, c'était une si ignoble chose qu'une charrette, que nul chevalier n'y pouvait entrer sans perdre tout honneur. Et quand on voulait punir un meurtrier ou un larron, on le faisait monter en charrette, comme aujourd'hui au pilori, et on le promenait par la ville. Et c'est à cette époque qu'on disait « Quand charrette rencontrera, fais sur toi le signe de la croix, afin que mal ne t'en advienne. » C'est pourquoi l'étranger répondit au nain qu'il irait bien plus volontiers derrière la charrette que dedans. « Me jures-tu que tu me mèneras auprès de madame la reine, si j'y monte ?» « Je te jure, dit le nain, que je te la ferai voir demain matin à prime. » Alors l'étranger sauta dans la voiture sans plus hésiter. Et là-dessus, voici venir Monseigneur Gauvin, suivi de ses deux valets, dont l'un portait son écu et l'autre tenait son aume et menait un destrier en main. Et à son tour, Messire Gauvin demanda au nain s'il avait nouvelle de la reine. Et le nain lui répondit que, s'il voulait monter dans la charrette, il la lui montrerait demain au matin. « S'il plaît à Dieu, jamais je ne serai charretier, » dit Messire Gauvin. « Sire chevalier, afin qu'une plus grande honte ne vous advienne, prenez ce cheval qui est très bon, car je gage que vous vous saurez mieux aider d'un cheval que d'une charrette. » « Il ne le fera point, » dit le nain, « car il s'est engagé à demeurer ici tout le jour. » Messire Gauvin n'osa pas insister, mais il fit route avec eux. Et ils allèrent ainsi jusqu'au soir, qu'ils parvinrent devant une belle et forte cité, à l'orée d'une forêt. Chapitre 4. Le chevalier à la charrette. Quand les gens de la ville virent le chevalier que le nain amenait, Ils lui demandèrent en quoi il avait forfait. Mais il ne daigna répondre. Alors, petits et grands, vieillards et enfants, tous le huèrent et lui jetèrent de la boue comme à un vaincu en champ-clos. Et cela peinait fort, monseigneur Gauvin, qui maudissait l'heure où les charrettes furent inventées. Au château, une demoiselle lui fit grand accueil, mais elle dit au chevalier de la charrette « Sire, comment osez-vous regarder personne, vous qui êtes mené dans une charrette comme un criminel ? Quand un chevalier s'est ainsi déshonoré, il quitte le siècle et s'enfuit en quelque lieu où il ne soit jamais connu. » À cela, l'étranger ne répliqua rien. Il demanda seulement au nain quand il verrait ce qui lui avait été promis. « Demain, à prime, mais pour cela, il faut nous héberger ici. » « Je le ferai donc, » fit l'étranger. « Mais je serais allé ce soir plus loin, si tu l'eusses voulu. » Il descendit de la charrette, gravit les degrés du logis et entra dans une chambre où il commençait de se désarmer tout seul, quand deux valets vinrent l'aider. Avisant un manteau, il s'en affubla et prit soin de se bien couvrir la tête afin de n'être pas reconnu. Puis il se laissa choir sur un lit très riche qui se trouvait là. À peine y était-il, la demoiselle entra en compagnie de monseigneur Gauvin et se montra fort dépitée de le voir étendu sur une aussi belle couche. « Demoiselle, répondit paisiblement le chevalier, si elle eût été encore plus belle, je m'y fusse couché plus volontiers. « Venez manger, beau sire, dit seulement messire Gauvin, car l'eau est cornée. » L'étranger répondit à voix basse qu'il n'avait pas faim et qu'il se sentait un peu souffrant. « Certes, il doit être bien malade, s'écria la demoiselle, et s'il savait ce que c'est que la honte, il aimerait mieux d'être mort que vif. Il est honni et je ne mangerai pas en sa compagnie. « Vous pouvez le faire, dit-elle à monseigneur Gauvin, mais vous serez honni comme lui. » Alors messire Gauvin descendit avec elle dans la salle. Mais quand le repas fut terminé, il demanda ce que le chevalier faisait, et quand on lui eut dit qu'il n'avait rien voulu manger, il revint près de lui. « Beau sire, que ne vous nourrissez-vous ? Vous n'êtes point de bon sens, car un prud'homme qui aspire à de beaux faits d'armes ne doit pas laisser son corps et ses membres s'appesantir. Parce que vous aimez le plus au monde, mangez. » Il en dit tant ainsi que l'étranger consentit à se nourrir de ce qu'on lui apporta. Et ensuite il se mit au lit et s'endormit jusqu'au matin. Quand l'aube creva et que le soleil commença d'abattre la rosée, le nain entra dans sa chambre et se mit à crier « Chevalier de la charrette, je suis prêt à tenir mon serment. » Aussitôt l'étranger de sauter du lit en bray et en chemise, comme il était, et le nain le mène à une fenêtre en lui disant de regarder. Et il croit voir passer la reine, et mêler à gants qui l'amène, et que le sénéchal comporte dans une litière. Et il regarda la reine très tendrement tant qu'il la peut voir, et se penche à la fenêtre, rêvant à ce qu'il regarde, de plus en plus, au point que son corps est dehors jusqu'aux cuisses, et qu'il ne s'en faut guère qu'il ne tombe. Heureusement, messire Gauvin entrait à ce moment, et la demoiselle avec lui. Voyant l'étranger en si grand péril, il le prit par le bras et le tira en arrière, et, à son visage découvert, il le reconnut à l'instant. « Ah ! Beau doux sire ! Lui dit-il, pourquoi vous êtes ainsi caché de moi ? Pourquoi ? Parce que je devais avoir honte d'être reconnu, car j'ai eu l'occasion d'acquérir tout honneur en délivrant madame, et par ma faute j'y ai failli. Certes, ce ne peut être par votre faute, car on sait bien qu'où vous échouez, il n'est personne qui pût réussir. Quand la demoiselle vit que messire Gauvin honorait tant le chevalier de la charrette, elle lui demanda quel était cet inconnu. Il répondit qu'elle ne le saurait point par lui, quant à présent, mais que c'était le meilleur parmi les bons. Alors elle interrogea l'étranger. « Demoiselle, fit-il, je suis un chevalier charretté. » « C'est grand dommage, Mais bien que je vous ai fait des reproches, je ne dois pas vous manquer à la fin. Il y a ici de beaux et bons chevaux. Choisissez le meilleur que vous pourrez trouver et la lance que vous voudrez. « Demoiselle, grand merci, » dit messire Gauvain. « Mais il ne recevra son destrier de nul autre que moi, tant que j'en aurai. Et j'en ai deux bons et beaux. Il en montera un, mais il prendra la lance que vous lui offrez, s'il ne préfère la mienne. » Sur ce, les chevaux amenés, l'étranger enfourcha l'un, messire Gauvain l'autre, et tous deux prirent congé après avoir recommandé la demoiselle à Dieu. Chapitre 5. Guérison de Lancelot. Or, si vous demandez comment s'appelait le chevalier inconnu, je peux bien dire que c'était messire Lancelot du Lac. En sortant du Sorlois, il était si dolent de n'avoir pu trouver Galeot et si chagrin de se croire oublié de la reine. Bref, il mangea, dormit si peu, que sa tête se vida et qu'il devint insensé. Tout l'été et jusqu'à la Noël, il erra. Enfin, la veille de la Chandeleur, la dame du lac le découvrit, qui gisait dans un buisson au cœur de la forêt de Tintagel, en Cornouailles. Elle le tint auprès d'elle tout l'hiver et le carême. Et, en lui promettant qu'elle lui ferait avoir la plus grande des joies, elle le guérit si bien qu'il se trouva plus fort et plus beau que devant. Et elle s'était gardée de lui apprendre à la mort de Galeot. 5 jours avant l'ascension, elle lui prépara un cheval et des armes. « Belle amie, lui dit-elle, le temps approche où tu recouvreras ce que tu as perdu. Sache qu'il te convient d'être le jour de l'ascension, à Nonne, dans la forêt de Camalotte. Certes, si tu ne t'y trouvais à cette heure, tu aimerais mieux ta mort que la vie. » « Par tous les saints, dit Lancelot, j'y serai, à pied ou à cheval. » Et il alla droit à la forêt, où il parvint pour voir de loin Méléagan combattre queue et enlever la reine. Son destrier était si las qu'il ne put arriver à temps, et ce fut grâce à celui de Monseigneur Gauvain qu'il attaqua les 100 chevaliers pour sauver sa dame. Et à présent, il lui fallait tenter de la conquérir encore. Mais le conte retourne maintenant à la demoiselle du château. Chapitre 6. Les deux ponts. Elle brûlait de connaître le nom du chevalier à la charrette. L'ayant entendu louer si hautement par Monseigneur Gauvain, elle pensait qu'il pouvait être Lancelot en personne. Et elle s'en fut assurée si le bruit n'eût couru que le bon chevalier était mort. Mais elle se promit qu'elle le saurait, si, en mettant un homme à l'essai, on le pouvait connaître. Elle appela sa sœur cadette, qui était très sage et courtoise, et elle lui enseigna ce qu'elle devait faire. C'est pourquoi celle-ci monta à cheval et gagna par des chemins de traverse le carrefour des ponts. Dès qu'elle vit arriver les 2 compagnons, elle prit les devants sans leur parler, mais ils la joignirent et, après l'avoir saluée, lui demandèrent si elle n'avait nouvelles de la reine Guenièvre. « Ne savez-vous pas, dit-elle, que Méléagan, le fils du roi de Gore, l'a emmené au royaume de son père, d'où nul breton ne peut sortir ? Et comment y aller ? Je vous le dirai bien, si vous voulez me promettre sur votre foi que chacun de vous m'accordera le premier don que je lui demanderai. » « En nom Dieu, demoiselle, s'écria Lancelot, à qui l'affaire tenait plus au cœur qu'à nul autre. « Nous vous donnerons tout ce que vous voudrez. » En ce cas, voici les 2 routes, dont l'une va au pont perdu, que l'on nomme aussi le pont sous l'eau, et l'autre au pont de l'épée. Le premier est d'une seule poutre qui n'a qu'un pied et demi de large. Il coule autant d'eau dessus qu'il en coule dessous, et un chevalier le garde. L'autre est fait d'une planche d'acier, aussi tranchante qu'une épée. Seigneur chevalier, « souvenez-vous qu'en quelque lieu et jour que ce soit, chacun de vous me doit un don. » Lancelot pria Monseigneur Gauvain de choisir entre ces 2 voies, et celui-ci préféra la route du pont perdu. Alors ils ôtèrent leurs aumes et se baisèrent sur les lèvres tendrement. Puis ils se recommandèrent à Dieu, et chacun tira de son côté. Chapitre 7. Le lit périlleux. Lancelot n'avait fait que peu de chemin quand il entendit qu'on le hélait, et il vit la demoiselle du carrefour qui sortait d'un sentier de traverse. « Sire chevalier, lui dit-elle, je ne suis pas en sûreté dans ce pays où l'on me hait fort. Je vous demande de m'accompagner et de vous héberger chez moi cette nuit. » « J'irai volontiers avec vous, mais il est trop tôt pour s'héberger. » « Le lieu n'est pas proche, et si vous passez, vous ne trouverez plus aujourd'hui ni ferme ni maison. D'ailleurs, ne me protégerez-vous pas? J'ai grand besoin de vous. » « Vous n'aurez nul mal, dit Lancelot, si je puis vous sauver. » Ils chevauchèrent de compagnie jusqu'à ce qu'ils arrivassent, à la nuit tombante, devant une maison entourée d'une palissade. Avant que Lancelot eût pu lui donner la main, la demoiselle avait déjà sauté à bas de son palefroid. Elle le mena dans une très belle chambre, où il faisait clair comme en plein jour, à cause de la grande quantité de cierges et de torches qui brûlaient. Et là, elle lui ôta son aume et son écu, et il se désarma. Enfin, elle lui passa un beau manteau d'écarlate, fourré d'une grosse zibeline. Il y avait sur un banc deux bassins d'eau chaude, avec une blanche serviette bien ouvrée. Quand ils eurent lavé, ils s'assirent à une table couverte de viande, de hanapes d'argent doré et de pots pleins de morée et de fort vin blanc. Après le manger, ils allèrent prendre l'air un moment à une fenêtre donnant sur le jardin. Puis la demoiselle mena Lancelot devant un riche lit, très bien garni de drap blanc et d'une couverture tissée d'or et fourrée de verre qui eût été bonne pour un roi. Là, elle prit le chevalier par la main et s'asseyant à côté de lui, elle lui dit « Belle hôte, vous me devez un don. Je vous demande de coucher cette nuit avec moi dans ce lit. » Ah, quand il entendit cela, certes, Lancelot fut anxieux. Il ne savait plus que faire. « Demoiselle, murmura-t-il, demandez-moi telle autre chose que vous voudrez. » Mais il lui fallut tenir son serment. Les chandelles éteintes, ils se couchèrent l'un et l'autre, mais Lancelot n'ôta point sa chemise, ni ses braies, et il n'osa tourner le dos à cause de la vilenie qu'il y aurait eu à cela, ni le visage à cause du péril. Mais il s'éloigna d'elle autant qu'il put, et resta étendu sur les épaules, sans bouger ni maudire, car il n'aurait su faire beau semblant à la pucelle, n'ayant qu'un cœur, et qui n'était à lui. « Quoi, sire chevalier, ne ferez-vous autre chose ? » dit-elle. « Je pense que ma compagnie ne vous réjouit guère. Suis-je donc si laide et si hideuse ?»« Vous m'êtes laide maintenant, bien que vous m'ayez semblé belle autrefois. Si vous avez une amie, elle n'en saura rien. Mais mon cœur le saura. »« Dieu m'aide, reprit-elle, vous m'en avez assez dit. Notre sire vous donne bon repos et la joie de ce que vous aimez. » Elle se leva et alla se coucher dans un autre lit, songeant « Je n'ai connu nul chevalier que je prise autant que celui-ci. Son cœur est loyal, comme il y parut au Val des faux amants. » Car elle devinait bien qui il était, mais elle voulait s'en assurer mieux encore. Chapitre 8. Le peigne aux cheveux d'or. À l'aube, elle revint dans la chambre de Lancelot, il était déjà tout armé. « Dieu vous donne bonjour, » fit-elle. « À vous aussi, demoiselle. » « Sire, la coutume est qu'une pucelle qui va seule ne craigne rien. En revanche, lorsqu'un chevalier la conduit, si un autre la conquiert sur lui, il en peut user à son désir comme si elle était sienne. Or, il y a près d'ici un homme qui longuement m'a aimée et requise d'amour, mais il a perdu ses peines. Pourtant, si vous voulez me protéger, je vous guiderai sans crainte. Demoiselle, je vous saurai bien défendre contre un chevalier, voire contre deux, dit Lancelot. Alors elle fit seller les chevaux, et ils allèrent longtemps à grande allure par chemins et sentiers. Mais ils ne répondaient guère à ses propos. Penser lui plaisait, parler lui coûtait. Amour le veut ainsi. À Thiers, ils arrivèrent au bord d'une fontaine, au milieu d'un pré. Là, sur une grosse pierre, gisait un peigne d'ivoire doré, si beau que, depuis le temps d'Isauré, personne, ni sage ni fou, n'en vit de pareil. Qui l'avait oublié là? Je ne sais. Mais Lancelot s'arrêta, étonné, et sauta de son cheval pour le ramasser. Ah! Quand il le tint dans ses mains, comme il le regarda, comme il admira les cheveux plus clairs et luisants que de l'or fin qui y était resté. La pucelle se mit à rire. « Demoiselle, parce que vous aimez le plus, dites-moi pourquoi vous riez. Ce peigne est celui de la reine, et les cheveux que vous voyez n'ont certes pas poussé sur un autre pré que sa tête. Mais il y a bien des reines et des rois, de laquelle parlez-vous ? Reprend Lancelot tout tremblant. « Par ma foi, de la femme du roi Artus !» À ces mots, Lancelot plie jusqu'à toucher terre, et il serait tombé si la demoiselle ne se fût hâtée de descendre de son palefroi pour le secourir. Quand il revint à lui, et qu'il se vit soutenu par elle, il l'interrogea, tout honteux. « Qu'y a-t-il ? Sire, je voulais vous demander ce peigne, dit-elle pour ne pas l'humilier. Il le lui donne, mais après en avoir retiré les cheveux. Et il les adore. À la dérobée, il les porte à sa bouche, à ses yeux, à son front. Il en est heureux. Il en est riche. Il les cache sur son cœur, entre sa chemise et son corps. Et il eût bien voulu que la demoiselle fût plus loin. Mais il lui fallut se remettre en chemin avec elle, et ils chevauchèrent jusqu'au soir, qu'ils s'hébergèrent dans une maison de religion où on leur fit très belle chère. Chapitre 9. La tombe de Galaad le fort et la tombe de Siméon. Le matin, au sortir de la messe du Saint-Esprit, un moine s'approcha de Lancelot, qui était déjà tout armé, hors la tête et les mains. « Sire, vous allez au pays de Gore pour y délivrer les Bretons. Mais sachez que celui qui accomplira cette aventure doit être soumis à un essai ici même. »« Allons, » dit Lancelot. Le rendu le mena au cimetière, où gisaient dans de riches tombeaux les corps de 34 chevaliers qui tous avaient été prud'hommes à Dieu et au siècle. Mais l'une des tombes, la plus belle que l'on put voir de Dombes à Pampelune, était fermée par une lame de marbre, large de 3 pieds, longue de 4, épaisse de plus d'un, et scellée à plomb et à ciment. « Celui qui lèvera cette dalle mènera à bien l'aventure que vous suivez, » dit le moine. Aussitôt Lancelot mit la main sur la pierre, et vous eussiez vu que d'un seul coup il la souleva au-dessus de sa tête. Il découvrit ainsi le corps d'un chevalier tout armé, couché sous son écu, qui était d'or à la croix vermeille. Une épée gisait à côté, claire et brillante comme si elle venait d'être fourbie. Les chausses et le haubert étaient blancs, comme neige neigée, et dessus le haume, il y avait une couronne d'or. Et dans la tombe, des lettres gravées disaient « Si J. Galaad le fort » qui fut roi de Galles autant que le Graal fut porté en Bretagne, et par lui cette terre eut nom Galles, car auparavant elle était appelée Ocelis. Longtemps, Lancelot tint la pierre levée. Quand il voulut la remettre comme il l'avait trouvée, il ne le put, et jamais plus elle ne retomba. Ce que chacun tint pour une merveille. Puis il alla avec le moine rendre grâce à notre Seigneur. Mais, en sortant de l'église, il aperçut un grand feu qui flamboyait dans une caverne creusée en terre. Il demanda ce que c'était. « Nous savons, » répondit le moine, « que celui qui éteindra ce feu s'assoira au siège périlleux de la table ronde et connaîtra la vérité du Saint Graal. Mais ne vous y essayez pas, beau sire, car le même homme ne mènera pas à bien cette aventure et celle que vous venez d'achever, celle-là n'est point vôtre. « Toutefois, je la tenterai, » dit Lancelot, « quoi qu'il m'en advienne. » Et le voilà qui descend les degrés de la caverne. Au fond, il y avait une tombe, autour de laquelle les flammes s'élevaient comme des lances. Longtemps il les regarda, mais elles ne s'éteignirent pas, si bien qu'il commença de se tenir pour folle d'être venu là, et de maudire l'heure de sa naissance. « Ah, Dieu, quel deuil et quelle honte ! » s'écria-t-il. Alors une voix sortit du tombeau. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle. « Et pourquoi dis-tu, Dieu, quel deuil et quelle honte ?»«
Parce que, » répondit Lancelot, « ce feu ne s'est pas éteint quand je suis entré. C'est donc que je ne suis pas le meilleur chevalier du monde. Et je ne suis même pas un bon chevalier, puisqu'un bon chevalier n'a pas peur. »
Tu n'es pas le meilleur chevalier du monde, mais tu dis mal quand tu dis « Dieu, quelle honte !» Car celui qui sera le meilleur chevalier du monde aura une si haute tâche que nul autre ne la pourrait accomplir. Sitôt qu'il entrera ici, parce qu'il sera vierge et chaste et que jamais n'aura brûlé en lui le feu de luxure, ses flammes, auprès desquelles toutes les autres ne sont rien, s'éteindront. Toi, pourtant, je ne te déprise pas, car tu es si hautement doué de prouesse et de chevalerie terrienne que nul à cette heure ne te pourrait surpasser. Je te connais bien, nous sommes du même lignage, et sache que celui qui me délivrera sera de mes cousins, et qu'il tiendra à toi d'on ne peut plus près, et qu'il sera la fleur de tous les vrais chevaliers. Tu eusses mené à bien les aventures qu'il achèvera, mais tu en as perdu l'honneur par l'ardeur de ta luxure et la faiblesse de tes reins, qui empêchent que tu sois digne de connaître la vérité du Saint Graal. Et tu n'as pas eu non Lancelot à ton baptême, mais Galade. Ainsi te fit appeler ton père. Va-t'en, beau cousin, car cette aventure n'est pas tienne. » Lancelot demanda à celui qui parlait quel était son nom et pourquoi il était enfermé là, et s'il était mort ou vif. Je fus le neveu de Joseph d'Arimathie, qui descendit Jésus-Christ de la croix, et apporta le Saint Graal en cette terre. Mais pour un crime que je fis, j'endure cette angoisse. J'ai nom Siméon, et sans les prières de Joseph, j'eusse été damné. Mais grâce à lui, Dieu m'a octroyé le salut de mon âme au prix de la douleur de mon corps, car je souffrirai dans cette tombe jusqu'à la venue du chevalier vierge. Or, va-t'en, beau cousin !» Lancelot remonta les degrés et trouva les moines qui l'attendaient en grande peur. Et pendant qu'il leur contait ce qui lui était advenu dans la caverne, une grande compagnie de rendus, escortant une litière, entra dans l'abbaye. Ils dirent que, 9 nuits auparavant, un homme de Galles avait eu une vision et qu'il avait annoncé que le corps de Galaad le Fort serait délivré le surlendemain de l'Ascension. Lancelot mit le roi mort dans leur litière. Et quand il l'eut fait, la demoiselle vint à lui. « Beau sire, donnez-moi congé, car maintenant je connais votre nom. J'ai entendu la voix vous appeler. » « Par la chose au monde que vous aimez le mieux, je vous prie de ne la dire à personne avant que vous sachiez comment j'aurai achevé cette quête. Jusqu'ici, j'y ai eu trop de honte et de mécompte. Sire, je ne le prononcerai qu'en un lieu où l'on a autant de soucis de votre honneur que vous en avez vous-même. » Elle lui apprit qui elle était et comment elle l'avait suivie à la prière de sa sœur. Et Lancelot reprit sa route, guidé par un valet. Tous deux gagnèrent la chaussée de Gaillon. C'était la maîtresse cité du royaume de Gore, et là se trouvait la tour où la reine Guenièvre était enfermée. Mais pour y entrer, il fallait passer le pont de l'épée. Chapitre 10. Le pont de l'épée. Quand il aperçut le pont tranchant, le valet se mit à pleurer de pitié. Lancelot regarda l'épée fourbie, blanche et coupante comme un rasoir, sur laquelle il fallait passer. Puis l'eau en amont et en aval, qui était roide, froide et noire. Mais ensuite, levant la tête,
il considéra quelque temps la tour où était la reine et dit « N'ayez point souci de moi, belle amie, car je ne redoute guère ce passage. Il n'est pas si périlleux que je pensais. Et voilà une belle tour en face. Si l'on veut m'y héberger, on m'y aura pour hôte cette nuit. » Il fit enduire de bonnes pois chaudes ses gants, ses chausses de fer et les pans de son haubert, afin d'avoir meilleure prise sur l'acier. Puis il vint droit au pont, regarda encore la tour où la reine était en prison, la salua de la tête, plaça son écu derrière son dos pour n'en être pas empêché, et s'étant signé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il se mit à cheval sur le pont acéré et commença de ramper au-dessus du tranchant de l'épée, à la force des bras et des genoux. Et vous auriez vu le sang jaillir de ses mains, de ses pieds et de ses jambes. Mais il avançait, les yeux fixés sur la tour, sans regarder la lame coupante ni l'eau bruissante et félonne, songeant qu'à celui qu'amour mène, souffrir lui est doux. Enfin il parvint à l'autre bord et s'y assit pour se reposer un moment, après avoir tiré son épée et ramené son écu devant lui. Tous les habitants de la tour s'étaient mis aux fenêtres pour voir le champion qui traversait le pont périlleux, et, comme eux, la reine Guenièvre et le roi Baudemagu. Dans le moment que le chevalier parvint à la rive, elle songea que ce ne pouvait être que Lancelot, et aussitôt, elle qui avait été jusque-là très dolente, elle se mit à rire, à plaisanter, à faire beau visage, si bien que le roi Baudemagu en fut surpris. « Dame, lui dit-il, si vous permettiez, je vous poserai une question qui ne saurait vous désobliger. Savez-vous quel est ce chevalier là-bas? Est-ce Lancelot? Le croyez-vous? Sire, il y a plus d'un an que je n'ai point vu Lancelot, et beaucoup de gens pensent qu'il est mort. À cause de cela, je ne suis pas certaine que ce soit lui, mais je pense que c'est lui plutôt qu'un autre, et je le voudrais. » car je me fierais à son bras plus volontiers qu'à celui de personne. Vous savez qu'il est bon chevalier, et quel que soit celui-là, pour Dieu et pour votre honneur, protégez-le comme c'est votre devoir. « Dame, je le ferai, » dit le roi. Chapitre 11 Le bon roi Baudemagu. Il enfourcha un palefroi et se rendit auprès du chevalier, escorté de 3 sergents qui menaient un cheval en main. Lancelot étanchait le sang de ses plaies. Il reconnut le roi et se leva devant lui malgré ses blessures. « Sire chevalier, montez sur ce destrier et soyez le bienvenu, » dit le roi Baudemagu. « Il est temps de vous reposer aujourd'hui. Jamais nul ne fut plus hardi que vous. » « Sire, » répondit Lancelot, « je suis ici pour suivre mon aventure, et non pour me reposer à pareille heure. On m'a dit qu'il me faudrait combattre. Si le champion est ici, qu'il vienne. »« Ami, je vois votre sang couler. Avez-vous tant de hâte de batailler quand vous êtes blessé? Attendez que vos plaies soient guéries. Je vous donnerai de l'onguent des 3 maris, ou d'un meilleur s'il en est. Il n'y a chevalier au monde pour qui je fisse volontiers plus que pour vous. » « Sire, je ne sais pourquoi vous feriez tant pour moi, car je ne suis pas de vos proches, ni jamais ne vous rencontrerai à ce que je crois. Qui que je sois, faites-moi donc avoir bataille, car je ne suis point venu ici de si loin pour trouver pitié. » Le roi entendit bien que le chevalier craignait d'être reconnu. « J'ignore qui vous êtes, dit-il, et dans ma maison on ne vous le demandera point. Je vous prends sous ma sauvegarde désormais, et je vous serai garant contre tous, hormis celui que vous devez combattre. Montez sur ce cheval. S'il n'est assez bon, je vous en donnerai un meilleur. Et si j'ai dit que je vous aime, c'est pour la grande prouesse que vous faites paraître. » Ainsi parlait-il si courtoisement que Lancelot consentit à se laisser emmener. Le roi le fit conduire à la chambre la plus retirée de la tour, où il ne lui envoya d'autres serviteurs qu'un écuyer, et garda d'entrer lui-même afin de ne pas le désobliger. Cependant, il fut trouvé mêlé à gants. Beau fils, si tu m'en croyais, tu ferais une chose qui te vaudrait louange éternelle.
Mais quoi donc?
Tu rendrais au chevalier qui vient de passer le pont la reine Guenièvre, que tu fais mal de retenir, et je délivrerais les autres captifs, car leur prison a assez duré. Et tout le monde dirait que tu as rendu par franchise ce que tu as conquis par prouesse. Cela te serait à grand honneur.
Je ne vois pas là d'honneur, mais fine couardise seulement, dit Méléagan.
Il faut que le cœur vous manque pour que vous me donniez un tel conseil. Soit-il Lancelot lui-même, celui-là ne me fait pas peur. Et vous pouvez l'héberger à votre guise. J'aurai d'autant plus d'honneur à défendre mon droit que vous l'aiderez davantage contre moi.
Qui t'a dit que c'est Lancelot?
Par ma foi, je n'en sais rien, car je ne l'ai encore vu que tout armé et couvert de son aume.
Si c'était lui, tu aurais tort de vouloir l'affronter. Cela ne te vaudrait rien.
Jamais je n'ai trouvé personne qui m'estimât moins que vous, s'écria Méléagan. Mais plus vous me déprisez, plus je me prise. Et vous aurez demain assez de joie ou de deuil, car moi ou lui, l'un de nous quittera ce monde.
Puisqu'il en est ainsi, je n'en dirai pas plus. Mais si je pouvais te détourner de cette bataille sans forfaire, certes, je ne te pendrai point l'écu au col. En tout cas, ce chevalier n'aura à se défendre contre nul autre que toi, car jamais je ne fus traître, et je ne le serai jamais.
Chapitre 12. Premier combat pour la reine. Le lendemain, au lever du jour, il y avait si grande presse pour voir le combat qu'on n'y eût pu tourner son pied. Lancelot fut entendre la messe tout armé, hors la tête et les mains. Puis il lassa son beau aume de Poitiers et vint réclamer au roi sa bataille.
« Sire chevalier, vous l'aurez, dit celui-ci, et je vous promets que nul ne vous forcera de vous faire connaître. Pourtant je vous prie, par tout ce que vous aimez, dotez votre aume. »
Lancelot se découvrit, et sitôt que le roi le vit, il le reconnut à grande joie. Il l'embrassa et lui souhaita la bienvenue, heureux de s'assurer qu'il n'était pas mort, comme le bruit en avait couru. Mais il ne lui souffla mot de la fin de Galeot pour ne point le peiner. Il le conduisit sur la place devant le château, qui était grande et large, et là, il exhorta encore son fils à céder la reine Guenièvre et les prisonniers. Mais Méléagan ne voulut rien entendre. Alors, le roi recommanda aux deux champions de ne pas attaquer avant le signal. Puis il monta dans la tour, où il trouva la reine entourée d'une grande compagnie de chevaliers âgés et de dames. Et après avoir pris place à une fenêtre de la salle, la reine à sa droite, il ordonna de crier le banc et de sonner le cor. Sur le champ, les deux adversaires baissent leurs lances peintes, s'élancent l'un contre l'autre de toute la vitesse de leurs chevaux bien couverts de fer et se heurtent avec le fracas du tonnerre. À cette heure, dans tout le pays de Gore, les prisonniers et les captifs priaient de tout leur cœur pour le chevalier qui combattait afin de les délivrer. Et sachez que Méléagan toucha l'écu de Lancelot d'une si grande force qu'il en disjoignit les ais. Mais sa lance s'arrêta sur le haubert et vola en pièces comme une branche morte. Au contraire, le coup de Lancelot fit basculer le bouclier de telle façon que Méléagan se sentit rudement frappé à la tempe par son propre écu, en même temps que le fer ennemi perçait les mailles de son haubert et glissait le long de sa poitrine. Il fut porté à terre, où ses armes sonnèrent. Mais aussitôt il se remit debout, tandis que Lancelot descendait de son destrier, comme celui qui jamais n'attaquerait à cheval un homme à pied, et lui courait sus, l'épée tirée, disant « Méléagan, Méléagan, maintenant je vous ai rendu la blessure que vous me fîtes naguère, et ce n'est pas en trahison. » À ces mots, ils se jettent l'un sur l'autre comme deux sangliers. L'un est vite, et l'autre plus vite encore. Ils se frappent de tant de coups pressés et pesants qu'ils dépècent leurs écus, que des étincelles jaillissent de leur aume jusqu'aux nues, que les mailles de leur haubert tombent et qu'à chaque coup saute le sang vermeil. Que de rudes, fiers, longs coups d'épée! Chacun eût voulu arracher à l'autre le cœur sous la mamelle. Bientôt le sang de Méléagan rougit son haubert blanc, mais Lancelot souffre de ses mains blessées. À la fenêtre, la reine s'aperçoit qu'il faiblit. « Lancelot, Lancelot, est-ce bien toi ? » murmure-t-elle. Une pucelle qui était auprès d'elle entendit cela. Elle se pencha et cria si haut que tout le peuple l'ouït. « Lancelot, retourne-toi ! Regarde qui s'émeut ici pour toi !» À cause de la chaleur et de son grand émoi, la reine venait d'écarter son voile, et Lancelot, levant les yeux, aperçut tout à coup ce qu'il désirait le plus voir au monde. Il en fut tellement troublé qu'il s'en fallut de peu que son épée ne chût. Et maintenant, il ne fait plus que contempler la reine. Il se laisse tourner et frapper par derrière. Il se garde si mal que Méléagan le blesse en maint endroit. Mais Derechef, la pucelle, lui cria « Lancelot, qu'est devenue ta grande promesse ? Défends-toi, que cette tour voie ce que tu sais faire !» Lancelot entendit cela et il se ressaisit. À nouveau, vous eussiez pu le voir courir su à Méléagan. Il le frappe de si grande force que l'autre chancelle deux fois, et bientôt il le harasse et le chasse çà et là comme un aveugle ou un échassier. Alors le roi eut grande pitié de son fils. « Dame, dit-il à la reine, je vous ai honorée de mon mieux et je n'ai pas souffert qu'on vous manquât en rien. En retour, accordez-moi un don. Je vois bien que mon fils n'en peut, mais... Dame, votre merci, faites qu'il ne soit toxi par Lancelot. Beau sire, allez et séparez-les, je le veux bien. » Le roi descendit et répéta les paroles de la reine. Aussitôt Lancelot de remettre son épée au fourreau. Tel est celui qui aime, qu'il fait volontiers ce qui doit déplaire à son ami. Mais Méléagan le frappa de toute sa force, car son cœur était de bois, sans douceur ni pitié. « Comment ? » dit le roi. « Il arrête et tu le frappes ?» Et il fit saisir son fils par ses barons. Mais Méléagan criait qu'il avait le dessus et qu'on lui arrachait la victoire, et que Lancelot savourait vaincu en quittant le champ. À l'heure que tu voudras appeler Lancelot à la cour du roi Artus, il combattra de nouveau contre toi, dit le roi. Et si tu es vainqueur, la reine te suivra. Cela fut juré sur les saints. Chapitre 13. Tels sont guéridons de femmes. Quand Lancelot fut désarmé et qu'il eut lavé son visage et son cou, le roi Baudemagu le prit par le doigt. Et, suivi de tous les barons, il le mena dans les chambres de la reine. Et du plus loin qu'il aperçut sa dame, Lancelot se mit à genoux. « Dame, dit le roi, voici le chevalier qui vous a si chèrement acheté. »« Certes, sire, répondit-elle, s'il a fait quelque chose pour moi, il a perdu sa peine. »« Dame, murmura Lancelot, en quoi vous ai-je forfait ?» Mais sans daigner répondre, elle se leva et passa dans une autre chambre, si bien que le roi Baudemagu ne put se tenir de lui dire « Dame, dame, le dernier service qu'il vous a rendu devrait vous faire oublier ses torts, s'il en a. » Lancelot accompagna sa dame de ses yeux et de son cœur, mais seul, hélas. Le cœur put franchir la porte. Pour le réconforter, le roi le mena dans la chambre où gisait Queue, toujours blessé. Puis il s'éloigna pour les laisser causer en liberté. « Bienvenu soit le sire des chevaliers !» s'écria le sénéchal, qui a achevé ce que j'avais follement entrepris. Lancelot lui raconta comment la reine l'avait maltraité en présence du roi et de tous les barons. « Tels sont guéridons de femmes !» dit Queue. Et pourtant, quelles larmes elle a versées quand Méléagan l'a emmenée. Dès la première nuit, il voulait coucher auprès d'elle, mais elle lui dit qu'elle n'y consentirait jamais tant qu'il ne l'aurait pas épousée. Et quand le roi vint à notre rencontre, elle se jeta aux pieds de son palefroid en pleurant et criant. Mais il la releva et lui promit bonne et douce prison. Et jamais, depuis lors, il n'a permis que son fils eût madame sous sa garde. Mais Léagan la réclamait toutefois, à corps et à cri, si bien que je n'ai pu m'empêcher de lui dire, un jour, que ce serait trop grand dommage si elle passait du plus prud'homme du monde à un mauvais garçon. Pour se venger, il a fait mettre traîtreusement sur mes plaies, au lieu des emplâtres propres à les guérir, des onguents qui les ont envenimés. Quand ils eurent assez causé, Lancelot déclara qu'il était résolu de partir le lendemain en quête de Monseigneur Gauvin. Dès l'aube, il se mit en route. Mais comme il approchait du pont sous l'eau, les gens du pays s'emparèrent de lui par surprise, croyant bien faire. Et tandis qu'il le ramenait à la cour, les pieds liés sous le ventre de son cheval, la nouvelle y arriva qu'il avait été tué. Lorsqu'elle apprit cela, la reine tomba pâmée. « C'est moi qui lui ai donné le coup mortel, » pensait-elle. « Lorsque j'ai refusé de lui parler, ne lui ai-je pas ôté le cœur et la vie ensemble ? Ah ! Que ne l'ai-je tenu dans mes bras encore une fois ?» Elle se mit au lit, et le comte dit qu'elle demeura 3 jours et 3 nuits sans boire ni manger. Le bruit courut qu'elle était morte. La nouvelle en vint à Lancelot, de sorte qu'il prit sa propre vie en dépit. Peu s'en fallut qu'il ne s'oxyt. Heureusement, le roi s'était hâté de chevaucher à sa rencontre pour le faire délivrer. Il lui conta la grande douleur que la reine avait soufferte lorsqu'elle l'avait cru tué. En apprenant cela, Lancelot eut volé, tant le bonheur le faisait léger. Et lorsqu'elle sut qu'il était sain et sauf, la reine, à son tour, fut heureuse au point qu'elle se trouva guérie sur le champ. Dès qu'il fut arrivé au château, le roi Baudemagut conduisit Lancelot dans sa chambre, et cette fois, elle n'eut garde de lui refuser ses yeux. Le roi s'assit avec eux un moment, puis, comme il était sage, il annonça bientôt qu'il allait voir comment se portait que le sénéchal. Alors ils causèrent bien tendrement. Amour ne les laissa point manquer de sujet, et quand Lancelot vit qu'il ne disait rien qui ne plût, « Dame, murmura-t-il, pourquoi l'autre jour refusâtes-vous de me parler ? N'êtes-vous point parti de la grande cour de l'ogre sans mon congé quand vous vous mîtes en quête de mon neveu Gauvin enlevé par Caradoc de la tour douloureuse ? Mais il y a pis, montrez-moi votre anneau. » « Dame, dit-il, le voici. Vous en avez menti, ce n'est pas le mien. » Et elle lui fit voir celui qu'elle avait au doigt. Puis elle lui conta comment la laide demoiselle le lui avait rapporté, et il connut que Morgane, la déloyale, l'avait déçu. Aussitôt, il jeta la bague par la fenêtre le plus loin qu'il put, et à son tour, il narra l'aventure de son rêve et de sa rançon, de façon que la reine lui pardonna tout. « Ah, dame, dit-il, si c'était possible, ne voudriez-vous pas que je vinsse vous parler cette nuit ? Il y a si longtemps que cela ne m'est arrivé. » Elle lui montra la fenêtre, mais de l'œil, non pas du doigt. « Beau doux ami, venez là quand tout sera endormi. Jusqu'à demain, si cela vous plaît, j'y serai pour l'amour de vous. Gardez que nul ne vous voit. »